Okapi. Le journal Babel Pongo. Okapi.
C'est en principe aujourd'hui que doit prendre fin la conférence de Goma sur la paix dans les Kivu. Ce lundi, le statut de l'ex-général Laurent Kunda ainsi que les désengagements des groupes armés font encore objet de négociations entre le comité des sages et les différents groupes armés. Des précisions dans un instant avec Claude Kianza. Les experts congolais et ougandais s'en remettent à la convention signée en 1915 par la Belgique et le Royaume-Uni pour trancher leurs différends frontaliers, notamment en ce qui concerne l'île de Rukwenzi. C'est ce qui ressort des travaux de la commission mixte qui se sont clôturés ce matin à Bounia. Plus d'une dizaine de morts et de nombreux blessés hier dans des accidents de circulation sur la route de Matadi dans le Bas-Congo. Des détails dans ce journal. Bonjour à tous. C'est en principe aujourd'hui que doit prendre fin la conférence de Goma sur la paix dans les Kivu. Ce lundi, le statut de l'ex-général Laurent Kunda ainsi que le désengagement des groupes armés font l'objet des négociations entre le comité des sages et les différents groupes armés. Nous avons à partir de Goma, Claude Kianza qui va nous apporter des détails. Bonjour Claude.
Bonjour.
Alors, les dernières questions à être réglées à Goma, c'est entre autres l'amnistie accordée ou pas à Laurent Kunda. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet pour l'instant?
Oui, Babel, les négociations continuent donc ici à l'hôtel Taribou à Goma, les comités des sages et les différents groupes armés. Mais le blocage, comme je vous l'avais dit, se trouve au niveau de l'amnistie qui devrait être accordée à Laurent Kunda. Mais là, le cordon ne s'accorde pas. D'après un officiel que nous avons abordé ici, c'est la plénière, d'après lui, c'est la plénière de la conférence sur la paix dans les deux Kivu qui devra faire une recommandation en ce qui concerne une éventuelle amnistie en faveur de Laurent Kunda, car d'après lui, le comité des sages n'a pas la capacité de le faire. Donc c'est seul le Parlement qui a la capacité de voter une loi en faveur de cette amnistie. Pour cet officiel, la plénière pourrait faire une proposition en ce qui concerne cette amnistie et ensuite, c'est eux, ils vont transmettre cela au Parlement et c'est le Parlement seul qui pourrait prendre voter une loi en faveur de cette amnistie. Mais du côté du CNDP, il se montre optimiste en ce qui concerne l'amnistie en faveur de leur leader Laurent Kunda. Il pense que l'amnistie, selon le porte-parole militaire du CNDP, le major Séraphin Mérindi, il dit que l'amnistie est un droit pour tous les chefs militaires.
Mais l'autre question dont discute le comité des sages et les différents groupes armés, Claude, c'est le désengagement des groupes armés notamment. Alors, où en sont les discussions?
Oui, de ce côté-là, il y a aussi un petit problème. Les violons ne s'accordent pas encore vraiment parce que le comité des sages a proposé un plan de désengagement qui signifie le désarmement de ces groupes armés, leur cantonnement dans certains sites. À partir de ces sites, ils pourront être acheminés vers les centres de brassage pour commencer le processus de brassage, comme toutes les autres troupes qui l'ont fait. Mais du côté du CNDP, ils pensent que ce n'est pas si simple que cela. D'abord, il faudrait qu'il y ait un comité technique qui va vraiment examiner cette question de fond en comble, parce qu'ils pensent qu'au niveau du CNDP, que s'ils se désengagent des zones dans lesquelles ils se trouvent, les FDLR pourraient occuper cette zone. Et pour eux, donc, il y a beaucoup d'autres détails que ces comités techniques devraient vraiment examiner avant de parler de ce plan de désengagement. Du côté des forces républicaines fédéralistes, FRF, du Sud Kivu, les anciens, ce qu'on appelait d'abord anciennement les groupes de 47, leur porte-parole, Gasso et BBD, estiment qu'il faudrait vraiment qu'on leur donne des garanties de sécurité avant de désengager leurs forces, parce que les forces républicaines fédéralistes sont constituées notamment des élus. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse leur accorder vraiment des garanties pour qu'ils puissent adhérer à ce plan de désengagement.
Merci Claude Kianza, nous aurons la suite ce soir dans notre journal de 18h. Restons au nord Kivu, en territoire de Rutshuru. Des combats sont finalés depuis hier dimanche à Katiguru, c'est environ une centaine de kilomètres au nord-est de la ville de Goma. Ces affrontements opposent un groupe de dissidents de FDLR à la coalition FDLR et une force négative étrangère appelée RUD. Selon des sources sur place, ces combats qui ont commencé dans la soirée de dimanche vers 20h se poursuivent encore ce lundi dans les secteur Tchondo au bord du lac Édouard. À la base de ces combats, le pillage de 58 vaches de la population le jeudi dernier à Boussanza par le groupe des FDLR dissidents, affirme la même source. Des détails avec Sylvestre Kilolo.
Il faut noter qu'il s'agit plutôt des 4 personnes qui ont été tuées dimanche à Lubizo, une localité située à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu du territoire de Massissi. Selon la police de Massissi, les tueurs seraient un nouveau groupe armé identifié, non seulement identifié. Il faut noter que c'est une nouvelle bande qui vient d'avoir les jours dans la localité de Bonde Hutu et Bukombo et qui aurait mené cette attaque dans les villages de Lubizo en pleine journée de dimanche. Le bilan fait état de 4 civils tués à coups de machettes et de massues. Les motivations de ces tueries ne sont pas encore connues. Selon la police, cette attaque vient de créer plus d'alerte dans les populations de Massissi, une deuxième à l'espace de 2 jours. Pour rappel, une trentaine de personnes ont été massacrées la nuit de vendredi dernier dans d'autres villages plus éloignés, Nyamitaba et Kalonge, respectivement contrôlés par le CNDP de Laurent Kunda et des groupes ennemis dans les Massissi. Selon la police, un peloton de la police accompagné du contingent indien de la MONUSC basé à Massissi vient de se rendre dans les villages Lubizo, Andeye, pour y mener des enquêtes sur place. Goma, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
Merci Sylvestre. À Bunia, les experts congolais et ougandais se sont convenus ce matin de recourir à la convention historique signée entre le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni en 1915. C'est l'issue des travaux de la commission mixte RDC-Ouganda qui s'est tenue la semaine dernière jusqu'à ce matin. Rencontre qui portait sur l'élitage frontalier qui oppose ces deux pays. La RDC et l'Ouganda revendiquent en effet chacun, notamment l'îlot de Rukwenzi dans le lac Albert. Ces travaux se sont clôturés par des propositions que les deux parties soumettront à la signature de leur gouvernement respectif. Plus des détails avec Jean-Claude Bisiabou.
Selon le général Adolphe Tshikoudi, chef de la délégation congolaise, la convention signée entre le Royaume-Uni et la Belgique le 3 février 1915 déterminait la frontière entre leurs deux anciennes colonies, à savoir la RDC et l'Ouganda. Les deux groupes d'experts ont décidé de l'appliquer pour régler les différents frontaliers qui opposent leurs pays à ces jours. Les deux parties vont se rencontrer de nouveau le 6 février prochain à Kampala pour arrêter toutes les modalités pratiques. Il s'agira principalement de déterminer les moyens logistiques à utiliser pour tracer les lignes frontalières tant au niveau terrestre que lacustre. Rappelons que la RDC et l'Ouganda se disputent depuis l'année dernière, notamment l'îlot de Rukwenzi, riche en pétrole, est situé dans les lacs Albert. Les deux pays se sont convenus en décembre 2007 d'y déployer provisoirement une police et une administration mixte en attendant un compromis définitif. Bunia, Jean-Claude Bisiliabo, Radio Okapi.
En économie, sachez que toute marchandise devrait désormais avoir un certificat pour passer facilement les douanes congolaises. Ce document doit être délivré par la société Bivac internationale qui a un contrat avec l'État congolais. L'exécution de cette mesure connaît déjà une année de retard. Le délai donné aux importateurs pour s'y conformer expire aujourd'hui. La mesure elle-même découle d'un arrêté signé en décembre 2006 par les ministères de Finances et celui du Commerce extérieur. Georges Kamoujova est avec nous dans ses studios. Georges, comment vous expliquez cette mesure?
Alors, la société Bivac est présente dans 148 pays, inspecte pour le compte de l'OCC et de l'OFIDA. Elle vérifie donc si la marchandise qui part d'un pays quelconque pour la RDC est conforme aux normes congolaises. De même, quand la marchandise arrive en RDC, Bivac inspecte pour attester réellement que la quantité et la qualité sont celles des biens commandés. Selon le responsable de l'OFIDA, cette procédure permettra également de vérifier les valeurs des biens déclarés par les opérateurs économiques. Elle permet aussi de maîtriser les flux des importations et de maximiser les recettes. Pour les opérateurs économiques, c'est aussi une grande garantie que les marchandises arrivées soient celles commandées. Souvent habitués à déclarer eux-mêmes les valeurs des biens qu'ils importent, certains opérateurs économiques n'apprécient pas l'opération. Le président de l'AFEC, Bakongo, lui, craint plutôt que cette procédure ne s'accompagne d'une hausse des prix sur le marché. Mais il faut souligner que de leur côté, les importateurs ne payent pas directement à Bivac pour les certificats d'embarquement. Cette société obtient plutôt de l'OCC 0,75% de la valeur des marchandises importées. Donc, les responsables de Bivac International déclarent qu'aucune marchandise ne sera embarquée vers la RDC sans certificat à partir de ce lundi. Celles qui sont déjà arrivées aux douanes congolaises ou qui sont en route feront l'objet d'une inspection sur place.
Merci Georges. À propos de cette mesure, à Bukavu, plus de 20 camions transportant des marchandises sont bloqués à la frontière Rusizi 2 depuis la semaine dernière. C'est à la suite de nouvelles instructions données par la direction générale de l'OFIDA sur la mesure bivac. Les opérateurs économiques concernés se disent surpris et déclarent que l'ADG de l'OFIDA avait bien précisé dans son message que les cargaisons sous-douanes en ce moment n'étaient pas concernées par cette mesure. Dans la seconde partie de ce journal, vous suivrez un reportage sur la série d'accidents des circulations survenus hier dans le Bas-Congo. On compte plus d'une dizaine de morts, mais avant cela, le reste de l'actualité en plus bref. La Coupe d'Afrique des Nations de football a débuté hier. Le match d'ouverture de la 26e édition a opposé l'équipe nationale ghanéenne, pays organisateur, à celle de la Guinée. Score final 2-1 en faveur du Ghana. Le programme de ce lundi propose à partir de 16h le deuxième match du groupe A entre le Maroc et la Namibie. Il sera suivi du choc du groupe B entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria à 18h. Le troisième match est prévu à 20h30 entre le Mali et le Bénin, toujours dans le groupe B. International, des équipes de secours angolaises ont découvert les dépouilles de 13 personnes non mortes dans le crash d'un avion hier près de Wambo, la deuxième ville angolaise. C'est une région montagneuse du centre de l'Angola. C'est une annonce de la radio nationale angolaise.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Nazar Koko, vous nous amenez tout d'abord à Matadi dans le Bas-Congo avec cette série d'accidents sur la nationale numéro 1.
Une dizaine de morts, plusieurs blessés, des dégâts matériels importants, bilan de 5 accidents de circulation le week-end dernier à la hauteur de la cité de Mbanzangungu et à la bifurcation de Kulungungu. Selon Charles Iloankoy, administrateur du territoire de Mbanzangungu, la pluie qui s'est abattue dans cette contrée a rendu la chaussée glissante. Des explications avec Dani Kindanzeta.
Au total, 5 accidents ont été enregistrés pour la seule journée de dimanche sur la nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. D'abord, 2 bus. L'un de marque Mann en provenance de Kinshasa pour Matadi et l'autre de marque Mercedes allant de Matadi à Kinshasa ayant à leur bord plus d'une dizaine de passagers. Le premier s'est renversé à 25 km de Mbanzangungu, le deuxième à Kimpese. Une dizaine de morts selon les sources hospitalières de Kimpese. Le troisième accident, une collision d'un gros véhicule avec une voiture qui venait de Kinshasa pour Boma, avec à son bord 2 personnes. Une est décédée sur place. Le quatrième accident, une Jeep de marque Suzuki a percuté un grand véhicule remorque. Le chauffeur est interné à l'hôpital de Nsonankulu. Il faut signaler un dernier accident au cours duquel un gros véhicule militaire s'est renversé à Lukala. Pas de vie en pertes humaines. Selon l'administrateur du territoire de Mbanzangungu, ces accidents se sont produits entre le tronçon Mbanzangungu et la bifurcation de Kulungongo. Charles Eloanko préconise une campagne de sensibilisation aux usagers de la nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi et la pose des dodanes entre le tronçon tribunal de paix et le parking de Mbanzangungu. Matadi, Daniki Ndanzita, Radio Okapi.
Poursuivons ce tour du pays avec la marche des professionnels de santé ce matin à Isiro, en province orientale.
Plus de 150 personnes ont défilé entre l'hôpital général de cette ville située à plus de 500 km au nord-est de Kisangani et le bureau du district où ils ont déposé un mémorandum contenant leurs revendications. Ils exigent le paiement de leurs primes de risque. La présidente provinciale du syndicat des professionnels de la santé affirme pour sa part que l'argent des agents d'Isiro ne sera viré à la banque qu'au terme de travail d'harmonisation des listes, travail qui s'est fait actuellement de concert avec les autorités médicales et politiques de la province.
À Kananga, un médecin et 2 infirmiers sont en garde à vue depuis 10 jours.
Ces personnes sont détenues au cachot de la police Kananga et l'ONG des droits de l'homme, réseau Jeunes dans le monde pour la paix, dénonce cette situation. Dans un mémorandum adressé le week-end aux autorités provinciales, Edel Kabutakapapua, coordonnateur de cette ONG, accuse les services de sécurité d'avoir dépassé la durée légale de garde à vue qui est de 48 heures. L'inspecteur provincial de la police indique pour sa part que les policiers attendent la fin de l'instruction de l'affaire qui implique ce médecin et 2 infirmiers dans la mort de l'inspecteur provincial adjoint, le colonel Effilé Kanyama. Selon le général Alexandre José Bakemo, une demande de prorogation de garde à vue a déjà été faite à l'auditorat militaire.
Merci Nazaire. L'information continue sur www.radiookapi.net. Merci de nous avoir suivis.